19h30, temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 20 mai, en direct du studio 13 à Washington. Au micro, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, nouvelle violence au Nigeria. Des dizaines de personnes sont mortes aujourd'hui dans des attentats à Jos, dans le centre du pays. Au Mali, calme précaire à Kidal après les violences du week-end dernier et la libération des otages par le MNLA.
Cette accalmie est due au fait que la journée d'hier, la diplomatie a porté fruit en fin de journée entre le MNLA et le patron de l'aménagement.
En RCA, les ex-Séléka annoncent la fin de la guerre. Réaction de la ministre chargée de la réconciliation nationale.
Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ils seront efficaces pour convaincre l'état-major militaire pour déposer les armes, accepter le cantonnement.
En Thaïlande, l'armée impose la loi martiale après des mois de tensions, parfois violentes, entre l'opposition et le pouvoir. Sans oublier les sports et la musique, mais avant le journal.
Attentat à la voiture piégée dans le centre du Nigeria. D'après les autorités, deux explosions ont frappé la ville de Jos cet après-midi, faisant des dizaines de morts. Le point avec Timothée Dounangmaï.
La première explosion est due à un camion piégé, la seconde à un minibus. C'est ce que rapporte l'armée, qui n'est pas encore en mesure de communiquer le bilan de ce double attentat. L'attaque s'est produite vers 14h temps universel dans un marché très fréquenté de Jos, la capitale de l'État du Plateau, région limite entre le sud chrétien et le nord majoritairement musulman. Ce dernier attentat intervient alors que le Parlement a approuvé la prolongation de l'état d'urgence pour une durée de 6 mois dans les états de Yobe, Adamawa et Borno, en proie aux attaques de Boko Haram. L'état d'urgence en vigueur depuis 1 an n'a pas permis de réduire les violences. Le mois dernier, les islamistes ont enlevé plus de 200 lycéennes et jusque-là, ces jeunes filles n'ont pas été retrouvées.
Dans le nord malien, un calme tendu règne à Kidal au lendemain de la libération des otages que détenaient les rebelles du MNLA. Bamako a envoyé un renfort de quelques 1500 soldats après les affrontements qui ont fait au moins 36 morts samedi dernier. Le point avec notre correspondant à Kidal, Asika Dei Ag Arxaxan.
Aujourd'hui, la situation à Kidal elle est calme. Cette accalmie est due au fait que la journée d'hier, la diplomatie a porté fruit en fin de journée entre le MNLA et le patron de l'aménagement. Cette diplomatie a permis la libération de 38 otages. Se référant à la déclaration du Premier ministre, 1500 soldats seront déployés à Kidal. Ils sont vraiment remarquables dans les différents points stratégiques de la ville de Kidal. C'est pour dire effectivement que les soldats maliens sont en ville et occupent les points stratégiques de la ville de Kidal. Les MNLA occupent toujours le gouvernorat et ils sont là-bas. Et je pense que jusqu'à l'heure où je vous parle, ils sont dans les locaux du gouvernorat qui symbolise le pouvoir malien.
Notre correspondant à Kidal, Asika Dei Ag Warzagan. Des organisations de défense des droits de l'homme et l'expert de l'ONU pour le Mali ont réclamé mardi des enquêtes sur les assassinats commis à Kidal le 17 mai. Un responsable des rebelles Touareg du MNLA affirme que son mouvement n'a exécuté personne à Kidal.
Notons aussi que la France a reporté de quelques semaines le redéploiement de son dispositif militaire au Sahel. C'est ce qu'a annoncé Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense. Ce nouveau dispositif, fort de 3000 hommes, répartis notamment au Mali, au Tchad et au Niger, devait initialement être inauguré la semaine prochaine.
En République centrafricaine, la coordination des ex-Séléka annonce la fin de la guerre. Au cours d'une conférence de presse lundi à Bangui, les leaders de cette ex-coalition rebelle se sont dits favorables à la paix et à la réconciliation nationale. Le point avec Idriss Fall.
Le premier ministre André Ntsapayeke a tiré à boulet rouge hier sur la mise en place du nouvel état-major des ex-Séléka Bambari. La réponse des anciens rebelles a suivi aussitôt. Abdoulaye Hissène, coordinateur politique provisoire du groupe, affirme, et je cite, « La guerre est finie, l'aventure est finie, les exactions contre le peuple centrafricain sont terminées. » Pour Moustapha Saboun, secrétaire général de la coordination, l'installation de leur état-major s'inscrit dans une dynamique de réconciliation.
Pourquoi diviser le pays? La République centrafricaine est une et indivisible. Il y a une chaîne de commandement qui a été mise en place pour structurer les éléments de l'ancienne coalition Séléka. Il y a un processus de DDR qui est mis en place. Donc il faut regrouper les troupes. C'est une dynamique vers la réconciliation.
De son côté, la ministre de la Réconciliation, Antoinette Montaigne, dit avoir pris acte de l'engagement de l'aile politique des ex-Séléka.
Ce qui m'intéresse pour le compte de la transition et de la nation, c'est de voir comment ils seront efficaces pour convaincre l'état-major militaire puissamment armé qu'ils ont décrit eux-mêmes pour déposer les armes, accepter le containment, rentrer dans les mécanismes prévus par la communauté nationale internationale pour pacifier ce pays.
L'état-major des forces dites républicaines est à Bambari, dans le centre-est du pays.
En Libye, le Parlement a été convoqué ce mardi, deux jours après que les forces fidèles à un général à la retraite ont envahi le bâtiment et se sont engagées à poursuivre leur lutte contre ce qu'elles appellent un gouvernement illégitime. Jacques Aristide.
La flambée de violence à Tripoli et Benghazi provoque des craintes d'une guerre civile, trois ans environ après le renversement du dictateur Muammar Kadhafi. Les députés libyens tentent toutefois de réaffirmer leur autorité après le coup de force des partisans de l'ancien général Khalifa Haftar. Sa force paramilitaire, baptisée Armée nationale libyenne, dit mener une guerre pour sauver la Libye des mains des extrémistes islamistes. Les affrontements entre les troupes d'Haftar et des milices rivales ont fait au moins 70 morts depuis vendredi. L'Associated Press rapporte que le Parlement doit se réunir aujourd'hui dans un lieu tenu secret en raison des problèmes sécuritaires. Les députés sont appelés à se prononcer sur la nomination d'un nouveau Premier ministre, de même que sur le budget. Hamed Metik, soutenu par des islamistes, avait été confirmé comme chef du gouvernement début mai, mais a été contraint de démissionner après la contestation du vote de confirmation par des parlementaires.
Au Malawi, l'armée a été appelée à la rescousse pour permettre la tenue des élections générales aujourd'hui. L'agence France-Presse rapporte que les bureaux de vote ont été incendiés par des manifestants protestant contre les retards et la lenteur du processus électoral. La présidente Joyce Banda, au pouvoir depuis deux ans, fait face à 11 concurrents. Bagassi Koura.
Plus de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce mardi pour les élections générales dans certaines régions du pays, y compris dans la capitale commerciale Blantyre. Le vote a été retardé de plusieurs heures. La présidente Joyce Banda a pris le pouvoir en 2012 suite à la mort de son prédécesseur Bingo wa Mutharika. Elle fait face à 11 challengers. Ses principaux concurrents sont le frère de M. Mutharika, Peter, l'ancien haut fonctionnaire Lazare Chakwera et Atupele Muluzi, fils de l'ancien président du Malawi, Bakili Muluzi. Le président de la commission électorale, le juge Maxon Mbendera, a indiqué à la Voix de l'Amérique que l'élection sera crédible et transparente. Certains groupes de l'opposition et de la société civile dénoncent des erreurs dans la liste des nouveaux électeurs, ce qui, selon eux, pourrait nuire à la crédibilité du vote.
Présidentielle en Guinée-Bissau, le candidat du PAIGC, le principal parti du pays, José Mario Vaz, a remporté le second tour de l'élection présidentielle avec 61,90% des voix. C'est en tout cas ce que révèle l'AFP qui s'appuie sur les résultats provisoires publiés ce mardi par la commission électorale.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Thaïlande, l'armée a décrété la loi martiale. Les militaires affirment avoir pris cette mesure spéciale pour sauvegarder la paix et l'ordre après des mois de manifestations parfois violentes. Jean-Roger Bion.
Le général Prayut Chan-o-cha a justifié l'imposition de la loi martiale par la nécessité de sortir de la crise politique que traverse la Thaïlande. Le chef d'état-major a réfuté l'assimilation de l'action des militaires à un coup d'état. Il a appelé à des négociations entre partis rivaux en insistant toutefois sur le fait que la loi martiale resterait en place jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli. Le ministre de la Justice, Chakessem Nitisiri, affirme que le gouvernement provisoire est toujours en place et insiste sur le fait que le rôle de l'armée sera limité à la sécurité. Toutefois, les membres de ce gouvernement civil disent qu'ils n'ont pas été consultés avant l'application de la loi martiale. Les États-Unis se disent très préoccupés et invitent l'armée thaïlandaise à honorer son engagement à faire de la loi martiale une action temporaire pour prévenir la violence et de ne pas saper les institutions démocratiques.
La CIA promet de ne plus utiliser des programmes de vaccination pour couvrir ses activités d'espionnage. C'est par cette ruse que les agents américains ont pu localiser et liquider Osama Ben Laden en 2011. Michel Joseph.
Lisa Monaco, conseillère du président Obama en matière de lutte contre le terrorisme, a écrit aux directeurs de 13 écoles de santé publique pour leur dire que la CIA est d'accord pour ne plus utiliser des programmes de vaccination à des fins de renseignement. L'agence s'engage aussi à ne plus utiliser le matériel génétique issu de tels programmes. Un médecin pakistanais, Shakil Afridi, recruté par la CIA, avait mené une campagne de vaccination contre l'hépatite à Abbottabad, dans le nord du Pakistan. Cette campagne avait permis aux services secrets américains de relever des données génétiques qui les ont aidés à localiser puis liquider Osama Ben Laden en 2011. À l'époque, plusieurs écoles de santé publique américaines avaient dénoncé le procédé utilisé par la CIA pour venir à bout du leader d'Al-Qaïda. Dans sa lettre datée du 16 mai, Lisa Monaco a précisé que les États-Unis soutiennent activement l'initiative globale pour éradiquer la poliomyélite dans le monde. Elle a ajouté que John Brennan, directeur de la CIA, a assuré depuis août 2013 que son agence ne va plus utiliser des campagnes de vaccination pour couvrir ses opérations.
Les troubles continuent dans l'est de l'Ukraine. À 5 jours de la présidentielle, le ministère russe de la Défense annonce que les 40 000 soldats déployés près de la frontière ukrainienne ont entamé leur retrait. Toutefois, l'OTAN et les États-Unis ont déclaré n'avoir vu aucun signe d'un tel retrait après l'ordre émis lundi par le président Vladimir Poutine. En visitant Roumanie ce mardi, le vice-président américain Joe Biden a affirmé que plus jamais les frontières de l'Europe ne devraient être changées par la force des armes.
Des attaques à la roquette dans deux villages du nord de la Syrie ont fait au moins 23 morts. C'est du moins ce qu'indique l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Plus de 150 000 personnes ont péri en 3 ans de guerre civile en Syrie.
En Inde, le président Pranab Mukherjee a invité aujourd'hui Narendra Modi à former un gouvernement. Il est le chef du parti Bharatiya Janata qui vient de remporter une majorité au Parlement pour la première fois dans l'histoire du pays. Prenant la parole devant la Chambre des députés ce mardi, il a promis de travailler à la satisfaction des attentes de tous les Indiens. Narendra Modi devrait prêter serment lundi prochain.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Au micro, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil. Nous partons en République centrafricaine. Le Premier ministre André Zapayeke a tiré à boulet rouge hier sur la mise en place du nouvel état-major des ex-Séléka à Bambari. La réponse des anciens rebelles a suivi aussitôt. Idriss Fall a joint Abakar Mustapha, un des porte-parole des ex-Séléka.
Mon étonnement devant cette intervention, cette déclaration du Premier ministre, dans toutes les réunions, les contacts que les responsables de l'ex-coalition Séléka ont toujours avec la communauté internationale et le gouvernement, il a toujours été exprimé le besoin d'avoir du côté militaire des responsables avec lesquels le gouvernement ou la communauté internationale devrait discuter de la question de la paix. Et il en va de même pour le côté politique, c'est-à-dire au niveau des politiques, il nous a toujours été demandé de mettre en place ou de désigner des responsables qui devraient jouer d'interlocuteur avec la communauté internationale. Bon, c'est une chose déjà qui est faite en principe, c'est le gouvernement lui-même qui devrait faire un effort pour essayer de trouver la solution à ce problème, mais les choses sont en train de perdurer. Et l'ex-coalition Séléka, rendant compte des accusations ça et là, pêle-mêle, portées contre certains de ces éléments, dès qu'il y a des actes qui sont posés un peu partout sur le territoire, les gens ont dit, en tout cas, nous ne sommes plus dans cette situation de désordre. Il est question que
on réunisse nos hommes sous un seul chef, c'est-à-dire sous une seule chaîne de commandement.
Et qu'avez-vous à répondre par rapport à ces voix aussi qui s'élèvent pour parler de risque de partition du pays?
Il n'y a pas de partition du pays du tout. Et là, nous l'avons déjà dit moult fois. Qui a intérêt à diviser le pays? Personne. Tout ce que nous voulons, tout ce que les éléments de l'exploitation, les cas ou la population sous le contrôle voudraient, c'est qu'on reparte vers la réconciliation, vers la paix entre tous les fils du pays. Là où il y a les inquiétudes, c'est la présence de l'état-major. Mais l'état-major.
Mais
est
justement,
là.
Deux états-majors dans un seul pays, comment c'est possible?
Non. L'état-major de l'ex-coalition Téléka, qu'on appelle aujourd'hui Force républicaine, c'est tout juste la chaîne de commandement qui doit regrouper et surveiller les ex-éléments de la coalition Téléka. Il reste disponible à discuter avec le gouvernement et aller vers la paix.
Abakar Moustapha, un des porte-parole des ex-Téléka.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Le Cameroun a lancé une campagne de promotion de la tolérance religieuse pour contrer la propagande de Boko Haram qui se serait infiltrée dans certaines parties du pays. Voici un reportage du correspondant de La Voix de l'Amérique à Yaoundé, Moki Edwin Kinzeka, repris par Lionel Gaïma.
En dépit de sa grande diversité ethnique et confessionnelle, le Cameroun s'est toujours enorgueilli d'être une terre de coexistence pacifique. Toutefois, la montée de l'intolérance religieuse au Nigeria, à l'Ouest et en République centrafricaine, a poussé les autorités à initier une campagne pour le dialogue interreligieux. Elles ont aussi invité les autres pays du bassin du lac Tchad à y prendre part. Pour beaucoup de musulmans camerounais, le phénomène Boko Haram est l'émanation d'un groupe haineux qui utilise le nom de l'islam pour défendre une cause qui n'a aucune base dans les croyances musulmanes classiques. Le vrai islam défend les relations amicales entre voisins, précise l'imam camerounais Sitan Mohamed. Être un bon voisin, c'est essayer de traiter tout le monde autour de soi de la meilleure manière possible. Lorsque l'islam regarde les voisins, il va bien au-delà de la question de savoir s'ils sont musulmans ou non. L'islam se concentre sur le fait qu'ils sont des êtres humains comme nous. David Kengang de la Full Gospel Mission est d'avis que les églises pentecôtistes doivent elles aussi s'impliquer dans les efforts en cours pour faire du Cameroun une exception en Afrique. Les leaders religieux camerounais entendent porter leur message de paix à d'autres pays africains, dit-il. Sur le continent africain, il y a des zones très turbulentes, hostiles à la paix. Et nous nous sommes dit que l'Afrique, étant un continent religieux, il est important, spécialement pour les chrétiens et les musulmans d'Afrique, de se réunir et de débattre ensemble les questions de paix et de développement. La tolérance religieuse est loin d'être embrassée par tout le monde, fait remarquer le catholique camerounais Neville Berry.
Christians complain that Muslims wake up in the morning, they start praying.
Les chrétiens se plaignent que les musulmans utilisent des haut-parleurs pour leurs prières matinales, perturbant le quartier. Actuellement, les églises pentecôtistes ont aussi recours aux haut-parleurs. Elles prient bruyamment, même près des mosquées, dit-il, ajoutant que tout cela crée des tensions entre les deux groupes.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Nimbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
En Afrique du Sud, tragédie et désastre sont les mots qui reviennent après 3 mois dans la plus longue des grèves des mineurs en quête d'une augmentation de salaire. Un groupe de soutien organise des distributions de nourriture pour ces mineurs de Marikana, alors que le géant de platine prévient que l'entreprise est en train de sombrer. Issa Napon.
Marikana, la cité minière, est exposée au vent. Même à ses meilleurs moments, elle a toujours été une ville triste. Le centre des affaires est au milieu, dans la ceinture de platine, bordée de petits baraquements pour les dizaines de milliers de mineurs qui vendent leur force aux géants du platine Lone Mine. À l'aide de mécaniques, des légions de mineurs fatigués traînent des pieds pour sortir du sous-sol 2 fois par jour. Mais depuis plusieurs mois, la plus longue des grèves que l'Afrique du Sud ait jamais connue a rendu Marikana encore plus triste qu'avant. Les affaires ont baissé dans la principale artère de la ville. De nombreux travailleurs ont été forcés de repartir chez eux dans l'attente que leurs syndicats parviennent à un accord avec Lone Mine. Chaque parti campe sur ses positions. Le syndicat des mineurs a laissé entendre qu'il n'acceptera pas de salaire mensuel en dessous de 1 200 $, une chose jugée impossible par les représentants de la compagnie. L'action industrielle a pris du plomb dans l'aile avec l'arrêt d'environ 40% de la production mondiale de platine. Le président de Lundmine, Ben Magara, a prévenu cette semaine que la chute des revenus pourrait même entraîner la liquidation de la société. Lundmine a échoué dans une tentative de contourner le syndicat pour ramener les employés sur la base des salaires offerts la semaine dernière. La porte-parole de la compagnie, Xu Wei, souhaite désespérément la fin de la grève. La compagnie souffre, les employés souffrent, les affaires locales souffrent. Ça ne rend service à personne. Nous sommes dans l'impasse et nous devons casser ça. Nous devons revenir à la table avec l'association des mineurs et le syndicat pour trouver une solution. Comme l'impasse, Marikana voit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. C'est la masse de gens affamés. Ces derniers jours, l'organisation caritative Gift of the Givers a fait don de vivres et de couvertures à plus de 1000 familles de Marikana et des repas chauds pour plus de 5000 personnes. Le fondateur de l'association islamique Imtiaz Soliman. Il y a deux choses que nous avons vues. Nous avons vu la dignité et nous avons vu le désespoir. Les visages, les yeux racontent l'histoire. Ils ont beaucoup perdu. Ils n'ont rien à manger. La plupart d'entre eux ont vendu leurs effets. Ils ont vendu leurs vêtements et ils n'ont aucun article pour l'hiver. Ils n'ont pas de lait pour les bébés. Ils n'ont pas les simples choses comme les compresses sanitaires ou les couches jetables. Donc, ils ont tout perdu parce qu'ils ont dû tout vendre. Pour Soliman, une seule affaire semble encore prospérer aujourd'hui à Marikana. La boutique de prêteurs sur gage est apparemment très occupée, faisant des affaires avec toutes ces choses. Les observateurs estiment que cette souffrance prolongée pourrait se terminer dans la violence. En 2012, la police sud-africaine avait abattu 34 mineurs grévistes dans cette même ville.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur une maladie qui touche de nombreuses femmes en Afrique. La fistule obstétricale, une lésion liée à l'accouchement. Celles qui en souffrent sont également victimes d'exclusion sociale, d'où la journée internationale pour l'éliminer. Avec nous sur le plateau, Khalil Gueye fera le tour de la question ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Avec Chérubin Orsil et Morgane Guiriec, Le Monde aujourd'hui, en direct de Washington.
Bonjour, c'est Nicolas Pinault. Du 12 juin au 13 juillet, retrouvez-moi tous les jours en direct du Brésil pour le journal de la Coupe du Monde. Les résultats, les coulisses et les à-côtés de cet événement planétaire. Matin et soir, la voix de l'Amérique à l'heure brésilienne pendant un mois. Sans oublier notre site internet www.lavoixdelamerique.com ou notre page Facebook. La Coupe du Monde, évidemment à suivre sur La Voix de l'Amérique.
Bien sûr, ce thème annonce la page sport avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Alors il va y avoir un match demain, un match amical entre le Burkina Faso et le Sénégal.
Oui, un match entre les étalons du Burkina et les lions de la Teranga qui se rencontrent donc au stade du 4 août, demain donc à 18h à Ouagadougou. Un match amical dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la CAN 2015 au Maroc. Ce match est jugé très important pour les deux pays, comme nous le dit Salif Kabouré à Ouagadougou.
Engagés dans les éliminatoires du Maroc 2015, les deux entraîneurs veulent asseoir chacun un groupe de base compétitif, d'où l'enjeu de ce match amical entre les étalons du Burkina Faso et les lions du Sénégal. Paul Put, entraîneur des étalons du Burkina Faso.
Alors pour moi, c'est important pour faire un regroupement. D'abord, pour voir le niveau, parce qu'ils n'ont pas un championnat en niveau comme en France, comme des autres pays. On a aussi certains joueurs qui jouent aux deuxième division, mais qui n'ont pas eu la chance de jouer dans une bonne équipe. Tout ça, ça c'est des difficultés. C'est toujours dur, physiquement, mais aussi mentalement dans la tête.
Ce match est aussi une occasion pour le public burkinabé de revoir les étalons du Burkina Faso après leur parcours héroïque à la CAN 2013 en Afrique du Sud. Charles Kabori, capitaine des Étalons.
Nous, l'état d'esprit qu'on a, c'est de faire un très bon match devant notre public et de tout faire pour gagner ce match. Parce que pour notre confiance et pour le public burkinabé.
L'encadrement sénégalais qualifie cette rencontre de très capitale, indique Alioune Badrafal, journaliste, directeur de publication du journal L'Observateur à Dakar.
Je pense que l'équipe du Sénégal, ses forces constituent ses faiblesses. Je veux dire par là que nous avons une équipe qui a beaucoup de jeunesse, qui a beaucoup d'allant. En soi, ça ne peut pas toujours être des qualités. Je pense que c'est une belle équipe qui a besoin d'être canalisée, qui a besoin d'être encadrée.
Le dernier match entre les deux équipes date du 7 octobre 2006, où les Étalons du Burkina Faso avaient battu les Lions du Sénégal, ici à Ouagadougou, par 1-0. Ouagadougou, Salif Kabouré, la voix de l'Amérique.
Bonne chance aux poulains de Paul Put.
Et ce sont les vice-champions d'Afrique. Hein. Il faut rendre à César ce qui est à César.
Ce qui est à César. Alors j'ai dit, il faut rendre à Put ce qui est à Put. La FIFA a présenté ce mardi sa Coupe du Monde Social.
Oui, selon l'AFP, cette Coupe du Monde Social rassemblera du 7 au 10 juillet 32 équipes issues des programmes sociaux avant le Mondial 2014 à Cajou, une favela de Rio.
L'international ivoirien Yaya Touré n'est pas du tout content et pourquoi?
Oui, le milieu vedette de Manchester City, Yaya Touré, estime que son club lui a manqué de respect en oubliant son 31e anniversaire selon l'AFP. C'est ce qu'a expliqué mardi son agent dans le journal Le Sun. Et Yaya Touré, l'un des meilleurs joueurs en vue en ce moment, menace de quitter son club selon toujours le même agent. L'ivoirien avait signé l'an passé un contrat de 4 ans. Mais Yaya Touré est revenu à la charge pour un peu calmer ses fans. S'il vous plaît, ne prenez pas sérieusement les mots qui ne sortent pas de ma bouche. Réaction donc du joueur. Rappelons que Yaya Touré, qui a eu 31 ans le 13 mai, a livré la meilleure saison de sa carrière avec notamment 20 buts inscrits et 9 passes délivrées en championnat. Et rappelons aussi que Manchester City a remporté le titre de champion d'Angleterre.
Roger Muntu est déjà en studio. Alors, quelques secondes seulement pour parler de la NBA.
Alors, donc, hier soir, San Antonio a battu Oklahoma City 122-105 lors du premier des 7 matchs de la conférence Ouest. Ce soir, dans la conférence Est, Miami affronte Indiana lors du deuxième match. Indiana mène la série 1-0.
Merci, Bagassi.
Allez, on termine en musique, comme tous les soirs, avec Roger Muntu. Salut Roger.
Salut Morgane. Oui, comme tous les soirs, ce soir alors, on écoute l'artiste congolais Fally Ipupa et la chanteuse américaine du groupe G-Unit de 50 Cent hein, dans Chaise électrique.
Du cap la merveille. El maravilloso. El pibe de Warren. Pichichi.
Fally Ipupa.
Yes. Champions love.
I love the way you listen to me. Is it because I fulfill your every need? Yeah. The control of my body, you make me weak. I'ma show you just what to do so you can please me. Do you like it when I'm loving you? I say your name. What a sensation has come over me.
Et la chanteuse américaine que tu mentionnais tout à l'heure, c'était bien évidemment hein, Olivia.
Elle voulait mentionner.
C'était pas Morgane, voulait, hein, c'était non. Vraiment pas Morgane, ouais. C'était Olivia.
Ouais. Olivia, voilà, ouais. Pour la référence. Alors, revenons à Fally Ipupa, hein, qui est considérée comme la valeur montante de la musique congolaise depuis quelques années.
Oui, Morgane, et il fait à nouveau à sensation avec le double album Power Kosaleka. Le chanteur de Kinshasa, attiré par le R&B, hein, multiplie ses collaborations sur les plans internationaux, notamment ses featuring avec l'américaine Olivia, qui l'expose à un nouveau public.
Mama, mama, mama,
Voilà, c'était donc Fally Ipupa et Olivia dans Chaises électriques. Merci Roger.
De rien Morgane, et j'espère que t'as aimé la chanson.
J'aime bien Fally Ipupa, mais par contre le morceau en lui-même, c'est pas mon préféré.
Il nous reste 11 secondes.
Allez, vous retrouvez Roger Muntou tous les soirs dans le RM Show. Ainsi s'achève le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était Morgane Diriac au micro.
Et chez Robin Dorsil.